bout dans la tête.
Groovy.
Bonjour. Avec les papous, c'est tous les jours Noël. Même le 1er janvier, Françoise Trossard et la belle équipe en piste pour le deuxième volet de Petit Papou Noël. Une émission enregistrée en public le 9 décembre dernier au studio 105 de la Maison de la Radio. C'était la fête. Avant les fêtes, des rires, des sourires, des émotions, des souvenirs, des moments d'humeur pour nos jeux papous dont vous avez écouté la première partie dimanche dernier. Alors si vous aviez un déjeuner de Noël, ce qui est bien normal et joyeux, il n'est pas trop tard pour podcaster notre petit papou Noël collector sur franceculture.fr. Au menu de ce premier volet très péro, il y avait les exercices de style sur Cendrillon, façon histoire corse, et les primaires, c'est un bon style. Une partie d'experts contre faussaires, une histoire de bûche en chanson, et une somme en une phrase sur les fêtes. Avec moi, Jeanne Carillon, Jacques Abertrand, Odile Conseil, Hervé Le Tellier, Patrick Beignet, Jacques Jouet, Eva Almassy, Jean-Bernard Pouy, Violaine Schwartz, Lucas Fournier, Serge Joncourt et Vadim Cher au piano. Dans la gamme des émotions, il y a le rire, bien sûr, c'est une formidable émotion, le sourire, la joie, et puis aussi la colère. Alors regardez Eva Almassy, elle est toute rouge parce qu'elle est très en colère, parce qu'elle a un gros souci pour les fêtes. Et c'est quoi, Eva?
Bah, c'est choisir sa robe.
Ah bah oui, ça on connaît, oui, c'est un gros souci, non? Vous êtes d'accord? Non? Ah bah si, quand même, oui. Bah moi aussi, je suis comme vous. Odile, non, elle ne met pas de robe. Alors, c'est un souci en moins. Alors, comment ça se passe?
Donc, c'est un pamphlet anti-robe du réveillon.
Ah oui?
Robe, mes robes, ma garde-robe, je vous ai peut-être aimé un jour à présent, je vous hais. Une à une, je vous convoque, je vous essaie, je vous trie, je vous prie. Je vous donne une chance de réveillonner avec moi, qui sera celle, l'heureuse élue, qui le 31 me permettra de me mettre, moi, sur mon 31, la rouge, la bleue, la verte, la courte, la longue. J'ai fait un gros tas de velours et des taffetas au milieu du canapé clic-clac, défileux devant mon miroir, mon beau miroir, mais quelle magie noire a rétréci en l'espace d'une année toutes mes robes. Hubert Reeves affirme que l'univers est en expansion. Je fais partie de l'univers. Ok, j'ai pris un peu dans le ventre et les hanches, mais pourquoi ces tissus, ces chiffons n'ont pas grossi en proportion des galaxies? Je devrais nager là-dedans au lieu de ne même pas pouvoir respirer. Oh, pour les théories, les scientifiques, ça se bouscule au portillon, mais pour résoudre mes problèmes les plus aigus, il n'y a plus personne. Je dois faire face toute seule à ma glace, et ce que je vois me glace d'horreur. D'accord, j'ai un an de plus. Mais mes robes ont l'air d'avoir pris 5 ans d'un coup, tellement elles se sont démodées. Je ne peux pas les mettre. Ah, celle-là, la plus vieille, 12 ans d'âge, comme les meilleurs whisky, strictement indémonable, elle irait pour cela. Il suffirait de ne plus rien avaler pendant 3 semaines. Hélas, le temps presse, je n'ai plus 3 semaines. Ah, faites comme moi, madame. Mademoiselle, en désespoir de cause, jetez-vous donc sur Internet. Surfez, cherchez, tapotez SOS eBay, SOS Le Bon Coin, SOS le e-commerce. Je veux une robe, je veux ma robe. Je ne quitte pas ma tablette jusqu'à ce que je déniche la perle, la bonne affaire, la solution. Livraison garantie avant les fêtes, n'attendez plus, on vous livre avant les fêtes. Ouf, vous pouvez vous rhabiller, mesdames, vu qu'à cause de votre attaque panique vestimentaire, vous vous baladiez jusque-là en petite tenue, vos vieilleries éparpillées au sol et piétinées. Un peu de rangement et vous voilà, et me voilà, minuscule araignée naviguant sur la toile, décidée à faire mouche le 31 coûte que coûte. Une demi-heure passe, 3/4 d'heure passe, la journée y passe. Ah oui, je vois, coûte que coûte est bien le mot, la peau des fesses. En tout cas, les robes qui vous tapent dans l'œil. Je n'en peux plus. Je sens que je vais succomber et commander n'importe quoi. Tenez un site de prêt-à-porter italien. D'après les Italiens, la nuit du réveillon, il faut porter des sous-vêtements rouges pour avoir de la chance pendant toute l'année 2017. D'accord, allons-y, andiamo. Par ordre décroissant, petite culotte, tanga, string, mini-string. Mais les prix, eux, vont crescendo. Je ne vais pas compromettre mes chances pour si peu. Je retourne sur eBay et prends le tout. Aïe, c'est seulement une fois tapé le numéro de la carte bleue, plus long que la ficelle du string, que je m'aperçois qu'il s'agit de taille asiatique. Le XXL de Hong Kong équivaut à un 36 en France. Tant pis pour ma pomme, je crois que je vais recycler les tangas en mitaines. C'est joli, les mitaines en dentelle rouge pour la Saint-Valentin. Êtes-vous aussi harcelé par les publicités de suivi? Il y a un mois, mon lave-linge est tombé en panne, pieds et poings liés, j'ai aussitôt racheté un. N'empêche, la même enseigne me suit à la trace pour me faire acheter ma machine à laver quotidienne, matin et soir. Il y a pire, récemment, j'ai dû faire une recherche pour trouver la pommade bio la plus radicale contre les douleurs hémorroïdiales de ma belle-mère, à la bonne heure, par-dessus l'image de toutes ces tenues de fête aguichantes, en surimpression, s'affiche maintenant ces pommades à appliquer où vous savez. Bonjour le glamour, adieu les envies de string. C'est ce que Freud a appelé le principe de réalité. Nouvel écran de pub, achetez-moi, je suis un couteau révolutionnaire pour trancher net vos concombres et vos carottes. Ça y est, j'ai ma robe. Quand je dis que je l'ai, c'est qu'elle est quelque part en ce moment même sur la planète Terre. Pour preuve, je possède un numéro de suivi de colis. Pour vérifier sa progression entre les tripostaux des 5 continents, je clique sur le numéro 3 fois par jour, dès le réveil. Et voilà que ma factrice se met de la partie, elle aussi, elle s'est enrhumée. Pitié! Si elle tombe malade pile au mauvais moment, que vais-je devenir? Je veux bien réessayer mes vieilles robes, histoire d'avoir un plan B. Seulement, quand j'ai peur, je mange. Je sens que je vais craquer. Or, quand je me trouve au bord de la crise des nerfs, je fais des achats compulsifs pour me calmer. Tiens, tiens, ces collants avec des petits chats sur les genoux pour seulement 69 euros. Et cette paire de chaussures et ce foulard et ce couteau révolutionnaire pour mes concombres. Au secours!
Pauvre Eva, est-ce que quelqu'un peut la dépanner? Jacques Jouet, non, vous êtes un bon gars.
Oh là 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 là. Oui. Ma chère Eva. Hein? Oh ma chère Eva. Oh ma belle Eva. Il ne m'avait pas échappé, sais-tu, qu'entre notre avant-dernière rencontre et notre dernière rencontre, tu avais pris 11 grammes. Ah, je comprends que ce soit terrible. Que ça se voit comme les yeux au milieu de la figure. C'est tellement évident que je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie en continuant longuement à t'en parler. C'est comme ça. Tout le monde le voit. J'en parlais encore hier à Françoise, elle a vu. Elle t'a enviée, elle est consternée. Elle est consternée, mais elle te soutient. Et elle m'a demandé d'intervenir, ce que je fais bien volontiers, comme tu vois. Les robes du réveillon, je suis tout à fait d'accord avec toi, sont les choses les plus ridicules du mois de décembre. Je les vois dans les vitrines. Elles ne savent pas comment se débrouiller avec la demande sociale, essentiellement masculine, de ne pas être des robes, de ne pas être des vêtements, de ne pas être des tissus, de ne pas être tout simplement couvrant, c'est-à-dire cachant. Je n'ose imaginer si la Saint-Sylvestre tombait au mois de juillet. Les robes de fête ne seraient sans doute autre chose que des tangas de fête. Tu es condamné à innover. Puisque, si je t'ai bien comprise, tu as encore pris 5 à 7 grammes depuis notre dernière rencontre. Je crois que le mieux est d'écouter les deux conseils que je viens aujourd'hui te donner. Le premier conseil, et le meilleur conseil, c'est le conseil des conseils. Pour premier conseil, je te demande de n'écouter jamais aucun conseil. Je sais, c'est un paradoxe, mais réfléchis-y tout de même. Le second conseil, sachant que lorsqu'on s'apprête à choisir une robe pour le réveillon, il n'est, selon les injonctions subliminales du marché, absolument pas question de se resservir d'une robe qu'on a déjà portée, sachant en outre qu'il ne saurait être question non plus d'obéir à ce dit marché de la fringue tissée, assemblée, cousue par des décagénaires bangladais sous-alimentés venant engraisser, et plus que de quelques grammes, je peux te le dire, quelques patrons, exportateurs, importateurs et revendeurs sans scrupules. Le second conseil, dis-je, est de renoncer radicalement à toute forme de consumérisme. Il y a deux sortes de consumérisme, comme tu le sais sans doute. Le consumérisme de Suez et celui de Panama. Je ne sais trop comment les départager. Le consumérisme de Suez, dit-on, est plus couvrant que celui de Panama. Admettons. Cela reste à vérifier. Je ne sache pas que le pape François ait raccourci sa soutane ou qu'il célèbre la messe de Noël en Bermuda. Oh, Eva, ma chère Eva, ma belle Eva, renoncer à toute forme de consumérisme passe d'abord par un renoncement à la carte. Non, je ne veux pas dire un renoncement au choix, je veux dire un renoncement à la carte de crédit. Si tu acceptes mon aide, c'est très simple. Tu m'envoies par courrier simple ta carte bleue avec ton code. Je n'en abuserai pas. Simplement, voilà ce que je ferai. J'irai pour toi et pour toi seul faire l'emplette avant le réveillon des meilleurs foie gras de la capitale, des meilleurs houmous de la banlieue nord, des meilleures feuilles de vigne de tout le Péloponnèse, des plus grasses têtes de veau de toute la Chiraki, des plus solides choucroutes, Bekov, Kokorisling de la rive gauche du Rhin, des meilleurs hachis parmentiers de l'avenue Parmentier, des tourtes au tofu fourrées à la purée de tofu, des meilleurs j'en passe et des meilleurs. D'accord, ce sera encore du consumérisme, mais ce sera la dernière fois. D'ailleurs, ta carte bleue aura fondu. Mais ainsi, Eva, tu aurais pris au bas mot 75 grammes. Tu seras devenue grosse, Eva. Et puisqu'on t'aime comme on t'aimait déjà, tu n'auras même pas changé. Tes robes seront impressionnées, elles se diront entre elles, pish, 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 qu'elles le sont, impressionnées, et elles décaleront un tout petit peu leurs boutons pressions invisibles. Et tu seras dedans, Eva, l'une ou l'autre, quelle importance, celle de l'an dernier ou celle de l'année d'avant, quelle importance, puisqu'elle sera méconnaissable, puisqu'elle sera toute neuve avec ce nouveau moule. Tu seras dedans la même Eva qu'on ne reconnaît pas, la neuve Eva qu'on reconnaît très bien. Eva, la pauvre et sans carte bleue, qui n'est plus riche que de son être.
Wow. Merci. Un très beau texte. Alors, au Papou, c'est un petit moment d'émotion, parce que Noël, c'est aussi l'émotion. Donc, on va pas tout à fait sortir nos mouchoirs, parce que, en fait, on aimait tous beaucoup au Papou Leonard Cohen, et particulièrement une de ses chansons, Suzanne. Alors, j'ai demandé à Vadim Cher de faire lui aussi un exercice de style. C'est-à-dire que la chanson de Cohen, elle est très mélancolique, très lente, très triste et on a envie de pleurer. Et moi, je lui ai demandé de faire une version un petit peu rapide, un petit peu joyeuse. Et il m'a dit oui, ce qui était très étonnant, parce que c'est un gros risque par rapport à cette chanson qui est une chanson culte. Voilà, et en plus, j'ai ma spéciale dédicace. C'est pour une certaine petite Suzanne. Thank you. Bon, alors, retour un peu de frivolité hein, avec Odile Conseil. Et le jeu des suppositions, une supposition que tu t'appelles, suit un nom, et puis à la fin de l'histoire, un bien joli calembour, c'est ce qui est apprécié dans ce jeu. Alors, vous adressez votre histoire à qui, Odile ?
Eh bien, à vous, Françoise.
Non, c'est vrai.
Suppose, Françoise, que tu t'appelles Hulle.
Hulle ? Ouais, c'est mignon.
Alors, petite fille, tu étais sauvage, solitaire, et souvent, hélas, en proie aux moqueries de tes camarades de classe qui multipliaient les jeux de mots foireux, il faut bien le dire, sur ton nom. En cours de récré, t'es caps, Hulle ? Mais non, t'es même pas caps, renonce, Hulle.
J'aurais dû refuser. Ça vient pas bien, je le sens pas.
Et au cours de danse de Mademoiselle Armande, ton tutu, Bercule. Et à tout moment, tes amis, si l'on peut dire, redoublaient ton nom et tournaient autour de toi en criant « Ulule, Ulule ». C'était pas très chouette. Les enfants sont cruels. Il t'a fallu de longues années de psychothérapie pour devenir la jeune femme joyeuse, sociable, sûre d'elle que tu es aujourd'hui. Il a fallu que ton psy te dise et te redise « Yes, you can, Hulle ». Pour que tu oses enfin te lancer tête la première dans la vie. Désormais, tu as plein d'amis, de vrais amis. Et ce soir, justement, tes amis t'ont organisé une fête d'anniversaire. Toutes tes copines sont là. Émilie, Prune, Anne-Sybille, Catherine, Nathalie, Ivona,
chic.
Isabelle, Clémence, Céleste, tes amis de cœur, tes grandes copines, tes super potes. Même celles que tu aimes un peu moins. Même celles, je tais son nom ici pour ne pas lui faire de peine, celles qui, sur une échelle de copinitude de 0 à 10, se situeraient tout en bas, à 0,5. Ce soir, tu es jolie, belle, Hulle. Tu es émue, Hulle, aussi. Tu sais que toutes tes amies sont là derrière la porte et qu'elles t'attendent. Tu te demandes qui parmi elles va venir ouvrir. Tu sonnes, le cœur battant. Un bruit de pas précipité, quelqu'un tourne la poignée. Oh non, c'est cette fille à 0,5 points. La pyramide d'Hulle ouvre. La pyramide d'Hulle ouvre.
Oh, que c'est beau! Non, parce que les intermédiaires étaient charmantes, mais la finale est un bouquet. C'est à vous, Serge Joncourt. On est sur France Culture, c'est les fêtes. Et puis, bah, vous êtes un peu en colère, un peu comme Eva. Vous êtes le même genre de type, très, très émotif, très charmant, mais capable de fabriquer de la colère pour certaines choses. Et je sais qu'il y en a une qui vous agace particulièrement.
Ah oui, enfin, il y en a pas. Oui.
Il y en a plusieurs. Hein. Oui, non, mais une spécifiquement aujourd'hui.
Oui, de plus en plus. Oui, je suis. Oui. Disons-le, je suis contre les gens qui joguent.
Qui courent.
Oui.
Qui font du jogging.
Oui, enfin, les joggeurs.
Oui, oui. Pourquoi ?
Oui, non, parce qu'il y en a. Franchement, il y en a marre de tous ces gens qui courent. Maintenant, il y en a partout, il y en a de plus en plus, c'est dingue. Et la plupart du temps, vous l'aurez remarqué, où est-ce qu'ils courent ? En ville.
Oui, sur les trottoirs.
En ville, oui, c'est surtout en ville qu'on court, histoire de nous polluer davantage. Parce que, attention, ne nous trompons pas, quand un joggeur court, qu'est-ce qu'il inspire ? De l'oxygène. Et ouais. Qu'est-ce qu'il rejette ? Du CO2.
Oui, c'est vrai.
Non, mais... Alors certes, c'est peut-être pas ce qui pollue le plus en ville, mais ça contribue, c'est indéniable. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme manie de courir tous. Et en plus, c'est sur les trottoirs.
Ouais.
Ils courent. Moi, là-bas, dans mes campagnes, fin fond du Quercy, ou même sur le versant du Nivernais, là où le regard se perd sur des hectares de terre libres, la démarche inspirée par l'intemporalité des sites.
Oh, oui, qu'est-ce que c'est beau.
Oui, chez mes parents, quoi. C'est beau, c'est vrai, c'est une belle région. J'en vois jamais des gens qui courent. Jamais. C'est bien simple. Depuis quand on n'a pas vu quelqu'un qui court dans la commune des Giolins ? Ou même au canton de Saint-Chély, là.
Ouais.
Quelqu'un qui court depuis 70 ans.
C'est vrai ?
Oh, oui, au moins.
Ah oui ?
Non, moi, quand je suis dans ma famille à Souilly-la-Pénarde, j'en vois jamais des gens qui courent pas, à part peut-être le père Bertrand, parfois au retour de l'apéro, quand il a garé sa deux chevaux en côte et qu'il n'a pas mis le frein à main. Bah, oui. Ou la mère Andresse, quand on voit parfois courir après son chien quand il s'est mis en tête de bouffer son chat. À la rigueur, dans des cas graves comme ça, c'est vrai qu'on en voit qui court, mais bon, il court quoi ? Jamais plus de 20 mètres. Le temps que la deux chevaux se plante dans les tuyas de la mère Pourcin ou que le chat bouffe le chien, enfin bon, ça dure jamais longtemps.
C'est une jolie tranche de campagne que vous nous racontez.
Une tranche de pâté, oui, absolument. Oui. Non, non, là-bas, si on ne court pas à la campagne. Et si vraiment on veut presser le pas, ouais. Eh bien, on prend la voiture. Alors que, par contre, dès que j'arrive en ville, c'est... même quand je reviens peinard, là, je descends à la gare d'Austerlitz, le pas plombé par la valise à roulette. Ouais. Oui, j'ai roulette quand même. Ouais. Il y en a partout. Ça cabriole, ça bondit sur les trottoirs de tous les gabarits. Je ne sais pas ce qui fuit, mais je peux vous dire que ça décampe. Hein. Et même le matin, même de bonne heure, ça déguerpit. Puis avec ça, détenus, non mais détenus, équivoques, voire moulantes. Quand ça ne monte pas ses cuisses, ça se boudine le jarret dans un polyester cintré, ça surligne l'IMC dans les lycras obscènes, ça se met en valeur comme si c'était bien fait. Non mais parfois, c'est limite gênant.
C'est quoi l'IMC ?
L'indice de masse corporelle. Ah ! Non mais vous ne pouvez pas connaître parce que vous êtes... Hein, c'est évident. Non mais le pire dans tout ça, c'est que moi, personnellement, humble marcheur... Ce qui me met hors de moi, c'est de voir où est-ce qu'ils courent tous, ces gens-là. Où est-ce qu'ils courent, ces fringants joggeurs, sur les trottoirs. Sur les trottoirs, plus ça, évidemment. Ces mêmes trottoirs que ceux où je marche. Ça, c'est le comble. Parce que maintenant, les rues de Paris sont toutes embouteillées à cause des voies sur berge qui sont piétonnisées, alors même qu'il n'y a pas un piéton dessus. Pas plus que dans la Seine. Enfin bon, maintenant que les voitures ne roulent même plus qu'au point mort. Ouais. Et les jours impairs. Enfin, sauf les jours pairs, quand ils ont des plaques. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que enfin, on s'y perd. On s'y impère aussi. Non, mais les voitures mettent 2 jours pour traverser le carrefour. Alors que pendant ce temps-là, les joggeurs, ils foncent. Ils foncent peinard sur les trottoirs. Alors, ce qui, en résumé, veut dire que de nos jours, on va 10 fois plus vite en courant à pied sur un trottoir qu'en roulant en voiture sur la chaussée bitumée.
C'est vrai.
C'est pas possible. De sorte que pour un piéton lambda comme moi, un piéton lent, normal, quoi. Eh bien, il y a 1000 fois de plus de risques de se faire renverser par un jogger en mode slalom sur le trottoir que par une voiture à l'arrêt. C'est les lois de la physique, ça. La quantité de mouvement d'un corps est le produit de sa masse par sa vitesse. Autrement dit, une voiture, si elle vous percute à l'arrêt, vous fera 100 fois moins mal qu'un poids plume qui court. Vous voyez le...
Oui, je vois à peu près le dessin. Oui.
Non, bon, je suis sérieux, c'est grave, ça. C'est pourquoi je demande solennellement aux plus hautes instances municipales de veiller à ce que, pollution ou pas... À compter du début 2017, les joggeurs n'aient plus le droit de jogger sur les trottoirs au milieu des piétons, mais sur la chaussée au milieu des voitures. C'est la logique même. Mais bon, puisque je m'éponge, vous livre le fond de ma pensée, le pire dans tout ça, le plus pathétique, le plus désespérant, tous ces joggeurs, c'est ceux qui courent avec leurs chiens. Ah. Oh mon Dieu, quelle vision. Quelle vision, le citadin qui trottine au-devant de son toutou. Tenu en laisse ou pas, ça me désole, c'est le sommet du ridicule, c'est le summum de la désolation. D'ailleurs, qu'il soit tenu en laisse ou pas, vous remarquerez que dans ces cas-là, le chien, il n'est pas fier. Il reste toujours un peu en retrait, comme s'il avait honte. D'ailleurs, il a honte, il ne faut pas croire. Moi, les chiens, je leur parle. Enfin, je parle leur langue. Enfin, je veux dire, je comprends ce qu'ils se disent. Les pauvres chiens. Ce qu'ils se disent, non pas entre eux, mais ce qu'ils se disent. Enfin, ce qu'ils...
Oui, dans leur tête.
Oui, les pauvres chiens, oui. Je vois bien cette détresse. Non, mais franchement, le toutou, vous croyez que ça l'enchante de faire le tour du pâté de maison en tricotant à 5 à l'heure ? Vous croyez que ça l'enchante de faire semblant de courir pour faire plaisir à son maître ? Parce que là, ne vous y trompez pas. Tous ces chiens qui sautillent derrière le jogger, ils courent pas. Non, ils clopinent, ils moulinent des coussinets en mode quasi sur place. J'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux. Moi, je vous prie de croire que quand un chien a décidé de courir,
Il court vite.
Bah évidemment, ça cabale un chien.
Ouais.
Non, tenez, hier je prenais mon café le matin en terrasse là, sur le boulevard Saint-Antoine, comme toujours, vraiment j'avais la pause parasitée par ces joggeurs à toutou. Parce que moi, ces gens-là, en plus, ils me stressent, surtout là en période des fêtes, ils me stressent, ils courent pour éponger le foie gras, ils n'ont même pas mangé. Et leur pauvre chien à la traîne, le pauvre chien qui lui n'a même pas gueuletonné. Pourquoi il court? Il n'a pas de poids à perdre. Et justement, hier, il y en a un qui s'est arrêté de chien. Un bichon. Je l'avais repéré. Ça fait 3 fois qu'il faisait le tour devant moi avec son maître en court-circuitant magenta par le square Guéméné, vous voyez. Et là, sans que le maître s'en rende compte, le chien s'est détaché. Il est venu s'asseoir en face de moi à ma table. On s'est pris une bière, moi. Il n'était même pas essoufflé. On a causé comme ça une bonne demi-heure pendant que son maître, toutes les 8 minutes, nous passait sous le nez. J'en peux plus, qu'il me fait, le chien, j'en peux plus. On court comme ça depuis 9h du matin et... Et déjà, ça fait 8 fois qu'on double sa femme qui est partie en voiture faire les achats de Noël chez Leclerc. Mais le pire, c'est qu'il a prévu de courir comme ça jusqu'à midi. Eh oui, il s'entraîne pour le marathon de New York 2020. Oh, mon pauvre chien, mon pauvre vieux, ce que je lui fais, mon pauvre vieux, c'est terrible. Jusqu'à midi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, qui me fait me remplacer. Parce qu'à force, il va bien finir par se rendre compte qu'il y a du mou dans la laisse. Et qu'est-ce que je vais prendre alors? Alors voilà, j'ai planté là mon double express et mes deux pains au chocolat. Je me suis clipsé l'anneau au bracelet de ma montre. Et pendant 2 heures, j'ai remplacé tout en faisant coucou à madame qui faisait du jour du surplace dans l'Audi Nafix S à 4 roues motrices. Là. Total, quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement en âge que ma femme m'a dit « Ben alors, il pleut ?» L'enfer.
Bon, Hervé Le Tellier, je sais bien que vous n'êtes pas très sportif, donc que vous n'allez pas défendre le jogging, mais vous avez quelque chose à dire à Serge Joncourt pour le consoler, peut-être.
En fait, je suis membre, je ne sais pas comment vous l'avouez, mais enfin, je suis membre de la DSJJ. Je sais pas
si, c'est quoi?
Je ne suis pas certain que vous connaissiez.
Non.
On est une association discrète. C'est l'association des dépasseurs de Serge Joncourt en jogging. Alors, entre membres, on a un cri de reconnaissance, un petit cri comme ça. Qui c'est qu'on dépasse? Serge Joncourt. Qui c'est qu'on dépasse? Serge Joncourt. Moi, je vois qu'il y a dans la salle des membres de l'association. Je les salue. Il ne faut pas nous confondre avec nos concurrents de l'ACSJJ, qui est l'association des croiseurs de Serge Joncourt en jogging, dont le cri de guerre est « Qui se dit qu'on croise? Serge Joncourt !» Ouais, ben voilà. Alors, on participe à un grand jeu collectif. C'est un jeu d'équipe, de solidarité, dont les règles sont très simples. C'est un jeu à points. Alors, chaque fois qu'un membre de l'association des dépasseurs de Serge Joncourt en jogging dépasse Serge Joncourt, l'équipe marque un point. Bon. Chaque fois qu'un membre de l'association des croiseurs de Serge Joncourt en jogging croise Serge Joncourt, son équipe marque un point. Un dépasseur ne marque aucun point s'il croise Serge Joncourt, bien sûr. Et un croiseur n'en marque pas plus s'il dépasse Serge Joncourt. Alors, dès qu'un dépasseur dépasse Serge Joncourt, mais en marchant, il fait perdre un point à son équipe pour faute d'inattention. Même sanction pour un croiseur qui croiserait Serge Joncourt sans courir. Bon, si on le dépasse ou qu'on le croise en voiture, ça compte pas. Évidemment, faut pas exagérer. Alors, bon, les règles, elles s'améliorent sans cesse. Hein. Bon, par exemple, aujourd'hui, quand on dépasse ou qu'on croise Serge Joncourt avec un chien, on marque 1,5 point. Mais 2 points si c'est un bichon ou un chihuahua. Bon, on a aussi supprimé les points ajoutés pour bousculade de Serge Joncourt parce que trop de gens en ont abusé, ça finissait par être dangereux. Bon. Maintenant, quand on rentre dans Serge Joncourt, ça coûte 1 point et je crois que c'est bien comme ça. Bon, alors pour ceux qui sont intéressés dans le public, je voudrais dire que depuis peu, on est devenu une application sur smartphone. iPhone, Android, avec géolocalisation, coopération, reconnaissance faciale. On peut suivre en direct les progrès de chaque équipe. Il y a même un plan interactif pour aider les joueurs. Où est Serge Joncourt? Voilà. Bon, on a commencé avec les gens du quartier du Marais, autour du square Guéméné, puis au fur et à mesure, et surtout depuis le prix littéraire de Serge Joncourt, et là je voudrais remercier Serge, les téléchargements de l'application ont explosé. Maintenant on est 2500 membres, les croiseurs gagnent un petit peu contre les dépasseurs, avec 4034 points contre 3469 points, mais c'est temporaire. Hein. Bon, si on veut comprendre le succès du jeu, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les gens se sont d'abord inscrits pour faire un peu de sport, pour sortir de chez eux. Bon, Serge Joncourt, ça allait changer des Pokémon. Non, mais pour ceux qui habitent près de chez lui, bien sûr, ils sont un peu favorisés, mais on a des gens du monde entier. Hein. On a même 6 Chinois. 2 chez les dépasseurs, 4 chez les croiseurs. Ils marquent aucun point. Mais enfin, ils discutent beaucoup stratégie et tactique. Non, l'important, je crois qu'il faut le répéter, c'est d'abord de participer. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il y a des membres de la DSJJ dans le public, dont certains n'ont pas encore marqué de points et qui sont là exclusivement pour ça. Je le sais bien. Bon, souvent, on nous demande pourquoi Joncourt. On a même raconté que c'était parce que son nom commençait par jogger et continuait comme courir, mais pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, au début, on avait pris une écrivaine. C'était une très grosse vendeuse, mais elle était trop rapide. Les dépasseurs avaient du mal à suivre. Alors qu'avec Serge, et ça, je crois que c'est important de le souligner, tout le monde peut jouer, quel que soit son âge. D'ailleurs, souvent, Serge Joncourt est à l'arrêt, en terrasse, et même parfois, quand il est sur le trottoir, il recule. Alors j'en profite pour lancer un appel aux habitants de la commune des Jeulins et à Bourzy-la-Pénarde pour qu'ils nous rejoignent, ainsi qu'à ceux du canton de Saint-Géry. Allez, tous ensemble, qui c'est qu'on dépasse?
Serge Joncourt!
C'est à vous, Jeanne Carillon, avec une chanson sur les bouchons, les fameux bouchons dont Serge Joncourt vient de nous parler, mais tous les autres aussi, sur un air de Mozart. Elle fait toujours dans la grande difficulté, Jeanne, et brillamment, accompagnée au piano par Vadim Cher.
Un petit tour de bouchon, je vous emmène au pays des voitures qui se traînent. Les bouchons en bouteille, les têtes, les bouchons indisposent les cœurs. Les bouchons endorment les gambettes, les bouchons coincent les conducteurs. Les bouchons enfument nos désirs, les klaxons sont les rois de leur empire. La vitesse est au trépas, les voitures sonnent le glas, les voitures marchent au pas. Un petit mètre, un deuxième mètre, 50 mètres, 1 kilomètre, puis ça s'arrête. Ma chanson se tire bouchonne au son des bouchons qui tonnent. Bouchon de dentifrice, le bouchon de ma baignoire, le bouchon de ma vidange, le bouchon de serre humaine, débouchons-nous les oreilles en guise d'étrenne. Débouchons cette rengaine, débouchons-la sur scène.
C'est Noël, c'est les fêtes. Alors, c'est le roman interactif. Alors, comme c'est Noël, évidemment, c'est un conte interactif que j'ai demandé à Patrick Beignet, Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy, Jacques Jouet et Violaine Schwartz d'écrire, chacun écrivant son chapitre et le passant au suivant avec un choix entre 3 hypothèses possibles. D'accord ? On connaît le principe. Alors, je vous préviens, ça va être très culturel. On va apprendre plein de choses. Donc, vous vous calez bien dans vos fauteuils. On est bien au 105, non ? Oui ? Bon, c'est parti. Et c'est Patrick Beignet qui a tout imaginé au début, la situation de départ et les premiers personnages. Donc, est-ce que votre chapitre porte un titre, Patrick ?
Il porte un beau titre.
Oui.
Une belle voiture rouge dans la nuit.
Oui, c'est bien ça, ça fait Noël.
Décembre était venu. Le 24... Respirant enfin, je fonçais sur la route en direction de Montbrison. Je conduisais avec ivresse la voiture de sport que m'avait prêtée mon cousin Gaspard. J'aime beaucoup la charmante petite ville de Montbrison et je me faisais d'avance un plaisir d'y frimer à bord de cet étincelant véhicule rouge, aussi rouge que la houppelande du Père Noël. Mais ne croyez pas que j'y allais seulement pour frimer. Personne n'est jamais allé à Montbrison seulement pour frimer. Un important rendez-vous d'affaires m'appelait là-bas. Pour lutter contre l'ennui de la conduite solitaire, je révisais mes connaissances sur Montbrison, ville natale de Pierre Boulez et de Muriel Robin, drôle de couple. C'est surtout la capitale du Forez. Je me rappelais aussi qu'il y avait une référence littéraire liée à cette région. Le Forez, c'est le décor de L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, ce roman du début du XVIIe siècle, jadis tellement célèbre et qu'aujourd'hui ne connaissent qu'une poignée de spécialistes, malgré l'effort d'Éric Rohmer qui en tira son dernier film. Moi-même, je n'ai jamais lu L'Astrée et je n'ai qu'une très vague idée de ce que raconte ce livre. Tout ce que je sais, c'est que l'auteur, Honoré d'Urfé, était une sorte de géant avec une longue barbe qui ressemblait au Père Noël. Sans même dire bonjour, il demandait aux gens qu'il croisait « Avez-vous aimé mon livre ?» Et il devenait très méchant si on répondait par un négatif. J'espérais bien ne jamais rencontrer ce type, mais comme il est mort en 1625, je me disais qu'il y avait assez peu de chances que ça m'arrive. J'étais parvenu dans la zone la plus déserte du Forez. Brusquement, comme la nuit commençait à tomber, tout se gâta. J'étais encore à une trentaine de kilomètres de Montbrison quand des bruits bizarres se mirent à sortir du moteur. Et au bout de quelques secondes, la voiture s'arrêta brutalement. Plus rien. Noir complet, silence absolu au dehors. Une nuit sans étoiles, vertigineuse, m'avait englouti dans ses profondeurs. Je n'avais pas de lampe de poche et, en plus, comme par hasard, j'avais oublié mon téléphone chez moi. Et je me rendis compte que j'avais faim, alors que, même dans l'hypothèse la plus optimiste, je ne pourrais jamais être à l'heure pour dîner au restaurant du palais où j'avais réservé ma table et commandé la fameuse dinde au marron, spécialité de l'établissement. Que faire ? Tout autour de la voiture, la forêt invisible semblait se préparer à un mauvais coup ou à un enchantement. Il n'y avait aucune chance pour que je croise une autre voiture. Ne voulant pas rester calfeutré à l'intérieur, je sortis. Le bruit que fit la porte claquer se répercuta. Il y avait de quoi réveiller tous les loups du Forez. Je ne suis pas peureux de nature, mais je commençais sérieusement à me demander ce qui allait arriver. J'avais à peine parcouru quelques mètres, et déjà, dans l'obscurité complète, je n'étais plus sûr de retrouver la voiture. Soudain, quel bonheur ! Je vois de la lumière entre les arbres, à quelques distances, mais j'étais certain de ne pas me tromper. J'avance, et je vois bientôt que c'est une maison, pas très attirante et même franchement sinistre, mais la lumière me certifiait qu'en principe, elle était habitée par des êtres humains. Les loups allument rarement l'électricité pendant la nuit. J'approche et je frappe vigoureusement à la porte. Au bout de quelques instants, elle s'ouvre et je vois, alors là je forme trois hypothèses,
oui.
Une sorte de géant avec une longue barbe qui me demande avec un air féroce et sans même me dire bonjour, « Avez-vous aimé mon livre ?» Deuxième hypothèse, un garagiste en bleu de travail apparaît, me toise un peu insolemment et me dit en chantant comme dans les parapluies de Cherbourg, « Désolé monsieur, c'est Noël, je ne travaille pas pendant le réveillon. » Et dernière hypothèse, une toute petite fille tenant à la main un panier me dit « Bonsoir monsieur, je suis le petit chaperon rouge, est-ce que vous êtes le grand méchant loup ?»
Bon, il y a tout ce qu'il faut pour faire un très joli conte. Et on a envie de lui dire « Continue, oncle Patrick », mais non, c'est oncle Jean-Bernard Puy qui va poursuivre l'histoire. Et je crois que vous avez distribué un rôle à Jeanne Carillon.
J'ai besoin d'une petite fille.
Voilà, c'est Jeanne. Alors, quelle hypothèse choisissez-vous ?
La troisième.
Redites-nous ça.
Une toute petite fille, tenant à la main un panier, me dit « Bonsoir, monsieur, je suis le petit chaperon rouge. Est-ce que vous êtes le grand méchant loup ?»
Oui.
Comme j'avais absolument pas envie de frimer, j'ai répondu « Non, mademoiselle, je ne suis qu'un pauvre automobiliste en panne et je cherche un garagiste. »
C'est quoi votre bagnole ?
C'est une voiture de sport, celle de mon cousin Gaspard.
Super ! Si je vous répare votre caisse, est-ce que vous m'accompagnerez chez ma grand-mère ? Je reviendrai en métro.
La petite fille ignora ma soudaine hésitation et s'empara d'une boîte à outils.
C'est parti, mon kiki !
Pas de problème, fillette. J'ai répondu frimant légèrement.
Fillette, mon cul ! Je suis pas une fillette, je suis une petite fille.
D'accord, mais je dois vous prévenir qu'il fait nuit noire.
Je m'en fous, je suis une utalope.
Et il y a des loups partout.
Je m'en fous aussi, c'est pas eux qui répareront votre tête boue, hein.
Je n'avais jamais vu une petite fille comme ça. Sauf dans un roman, mais je me souviens plus lequel. Ce dont je me rappelle, c'est que ça se passait dans le métro. Et l'auteur, je crois, il s'appelait Raymond Durfé.
Et puis, si jamais un loup se pointe, ça ne sera pas Noël pour lui. Je le traînerai devant les juges, tout loup qu'il est. Et les juges, je les connais, moi. Ils aiment les petites filles. Alors le loup dégueulasse, il sera condamné à mort et guillotiné. Et moi, j'irai chercher sa tête dans le panier de son et je lui cracherai sur sa sale gueule.
Je pensais à un court instant qu'il était trop seul avec une fillette pareille. Par une sombre nuit, c'était pas très très prudent. Il me fallait absolument changer de sujet. Dans ton panier, là, pour ta grand-mère, c'est quoi ? Une galette ?
Pas du tout, c'est du lard avec des patates. Fumez, le lard.
J'ai malheureusement essayé encore de frimer. Dis donc, elle a bon goût, ta grand-mère.
Ma grand-mère, c'est une vieille conne. Mais je l'aime bien. Elle lit beaucoup. Et des gros livres, hein. En ce moment, elle dévore un truc qui s'appelle l'astrée. Vous connaissez ?
J'étais glacée jusqu'aux os.
Moi, personnellement, l'astrée, ça me gave. Je préfère Ravachol. Vous savez qu'il a été exécuté, c'est une honte, hein, pas loin d'ici, à Montbrison.
Ce qui ne m'a pas réchauffé. Une heure après, le Forez était toujours plongé dans le noir total, les loups hurlaient dans le lointain et la voiture redémarrait. Un problème de gicleur a triomphé le petit chaperon rouge. Nous sommes repartis lentement dans la nuit. Le moteur de la voiture ronronnait sagement. La fillette qui s'ennuyait m'a demandé si je n'avais pas des DVD de Muriel Robin, mais je n'avais qu'un DVD de Pierre Boulez. Dépitée, elle ne dit plus un seul mot, jusqu'au moment où l'on aperçut, dans la lueur blafarde des phares, un autosopper.
Ne vous arrêtez pas, ça doit être un chasseur.
Un peu de charité, fillette, j'ai répondu en me garant. C'était un grand type frigorifié, aux cheveux longs et aux habits désuets de couleur violette. Il grimpa sur le siège arrière en nous annonçant, en frimant à mort, qu'il allait à Montbrison assister à un colloque sur le poète Victor de Laprade, nous demandant en plus si nous avions déjà lu ses poèmes. Et sans attendre notre réponse, il déclama « Que le moindre clocher sonne le glas d'alarme, que chacun sous son toit se dresse avec ses armes, que tout amour lointain, vierge de l'étranger, court au-devant du flot qui veut nous submerger. »
C'est un facho, votre Laprade.
Non, mademoiselle, c'est un patriote.
Patriote, mon cul.
Bref, nous l'avons largué 2 kilomètres plus loin parce que nous tournions à droite, en pleine forêt. Et après avoir évité 2 meutes de loups, nous sommes arrivés devant la chaumière de la grand-mère. Nous avons frappé à la porte, qui s'est ouverte après une bonne minute. Et là, 3 possibilités. Une sorte de géant avec une longue barbe me demande avec un air féroce et sans même me dire bonjour, « Avez-vous aimé mon livre ?» La deuxième, monsieur. La grand-mère, une beauté, flanquée de 7 nains hilars, se met à chanter « Au Tannenbaum ». Et nous tombons en pleine représentation de l'Astrée au moment où Céladon est changé en fille par la princesse Galatée.
Ha. L'embarras du choix pour Jacques Jouet. Quelle piste suivez-vous ?
La deuxième. La grand-mère, une beauté flanquée de 7 nains hilars, se met à chanter « O Tannenbaum » en signe de bon accueil. « O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht zu nur zum Sommerzeit, auch im Winter, wenn es schneit, O Tannenbaum, etc. » Vous savez, j'en ai vu des grand-mères dans ma vie. J'en ai vu des zingans et des grabataires. J'en ai vu qui ressemblaient à des bergères, pas du tout sur le retour. J'en ai vu des forésiennes, j'en ai vu des corésiennes. J'en ai vu qui ressemblaient à des chancelières berlinoises délicieusement boudinées. Aujourd'hui, les grand-mères, c'est pas du flan, je le sais bien. Mais je n'avais jamais vu une grand-mère aussi gironde, même à Bordeaux. Grand-mère, mon cul, avais-je envie de dire, peut-être influencée par ma jeune amie à la clé à molette. Car cette grand-mère-ci portait une nuisette à jour en soie de la Basse-Ardèche, une nuisette rouge comme ma Ferrari, une nuisette trop courte qui parvenait à mi-cuisse, tandis que ses chaussettes longues au mohair, jaunes de brioude, couvraient le reste de la jambe effilée. Vraiment, je n'avais jamais vu une grand-mère aussi canon. Quand elle parlait, ça faisait boum ou ça faisait pan. « Mettez vos pantoufles !» qu'elle hurlait à la grand-mère. À peine avions-nous pénétré. Évidemment, nous nous exécutâmes, tandis que les 7 nains, avec la dernière grossièreté, en profitaient pour laper intégralement la gamelle de patate au lard fumée que j'avais cru destinée à la grand-mère. « Fini ces pantomimes !» hurla la grand-mère en envoyant les 7 nains repus dans leur niche. « Et maintenant, causons !» dit-elle en me regardant au fond des yeux si intensément que moi, qui ne suis pas peureux de nature, je commençais sérieusement à me demander si je n'aurais pas dû, aux Forez, préférer les Ardennes. Causons, pourquoi pas, mais de quoi, dis-je à la fois séduit et terrifié. Un silence très épais et tout à fait indescriptible, si bien que je ne vais faire aucun effort pour tenter de le décrire, s'abattit sur la scène comme le couvercle d'une cocotte en fonte émaillée du Creusot. On entendit des loups germanophones chanter au loin « O Tannenbaum, O Tannenbaum ». Heureusement, la fillette à la clé à molette s'interposa avec professionnalisme en brandissant son outil de façon menaçante. Elle me désigna du menton et dit
« Grand-mère, ce monsieur n'est autre que monsieur l'inspecteur général du secrétariat d'État à la lecture publique dépendant du ministère du patrimoine littéraire forésien. Il veut savoir si tu as enfin terminé de lire l'Astrée que tu as commencé quand tu étais jeune fille. Réponds, ou ton occiput risque de faire connaissance avec cette clé à molette. »
Je dis, mais pas du tout, je ne suis pas le... Et puis ne la molestez pas ainsi, protestais-je à la jeune fille plus effrayante encore que sa grand-mère. Mais la grand-mère, loin de manifester la moindre émotion qui aurait pu s'interpréter comme un signe de faiblesse ou d'inquiétude, eut un sourire que je pourrais qualifier de craquant. L'une des bretelles de sa nuisette, la gauche, si ma mémoire est bonne, glissa jusqu'à mi-biceps,
C'était un moment d'un érotisme assez ineffable qui me libère par conséquent d'avoir à le décrire plus avant. La grand-mère dit « Oh, mais c'est que vous n'êtes pas les seuls, ni les premiers, ni les derniers à venir ainsi me harceler. » Et elle ouvrit avec précaution la grande armoire de chêne de la forêt de Troncet qui trônait dans le living room. Et là, il y a trois éventualités pour la suite. Dans l'armoire, une sorte de géant avec une longue barbe me demande à moi, le narrateur, avec un air féroce et sans même me dire bonjour, « Avez-vous aimé mon livre ?» Deuxième éventualité. Dans l'armoire, une espèce de grand type avec une longue barbe me demande « Mais pourquoi à moi et pas à la grand-mère d'abord hein ?» Avec un air plutôt rébarbatif et sans même me tendre la main, « Avez-vous aimé mon livre ?» Troisième éventualité, un bonhomme d'une taille au-dessus de la moyenne avec une longue barbe me demande « Pourquoi à moi et pas à la fille à la clé à molette d'abord ?» Avec un air cruel, implacable, d'une froideur de fin décembre et sans même me dire bonjour, « Vous avez apprécié mon bouquin, n'est-ce pas ?»
Vient le tour de Lucas Fournier. Lucas, vous avez le choix entre trois hypothèses oui. qui sont formulées différemment, mais qui sont les mêmes.
Et qui sont tentantes toutes les trois.
Hein. Bah, oui, évidemment.
C'était difficile.
Alors, vous prenez laquelle ?
J'ai pris la première. Une sorte de géant avec une longue barbe qui me demande avec un air féroce et sans même me dire bonjour, avez-vous aimé mon livre ?
Oui. Et alors, titre de votre chapitre, qui est le dernier ?
Oui, c'est là-dedans, oui, c'est ici.
Oui, on voit le niveau. Oui.
Donc, sans même me dire bonjour, avez-vous aimé mon livre ? Et il m'invita à le rejoindre dans l'armoire en chêne de la mère Grand, dont il referma la porte derrière nous. Ben comme ça, nous serons plus tranquilles pour causer. Alors, mon livre, vous l'avez aimé comment ? Alors, j'essayais d'analyser calmement la situation. Nous étions le soir de Noël. Jusqu'ici, tout va bien. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, dans une humble chaumière, à 1000 miles de toute terre habitée, perdue dans la forêt du Forez, avec des loups hurlants et 7 nains. Ici encore, on reste dans les ingrédients plausibles du conte de fées, voire du film d'horreur façon Blair Witch. Mais là, avec l'irruption d'un petit chaperon rouge version gore, qui aurait fait rougir David Hamilton lui-même, avec les déhanchements torrides d'une grand-mère libidineuse, et avec l'insistance littéraire de ce fidèle castro-forésien qui m'étouffait dans une armoire pour connaître mon avis sur l'Astrée, roman culte, certes, mais dont tout le monde, moi y compris, n'a pas forcément lu les 5399 pages, écrites en 1620 par Honoré d'Urfé, qui, je le signale, est né à Marseille, pays des Galéjades, et loin de Montbrison. Bref, nous avions clairement basculé dans ce que Edgar Allan Poe appelle le « unknown unknown », l'inconnu inconnu. Alors je me demandais vraiment où cette histoire hystérique allait m'emporter, d'autant qu'il restait encore tout un chapitre à boucler. Et alors pendant que je me posais ces questions, écrasé contre la poitrine de mon Rasputin du Forez, celui-ci s'impatientait. « Alors, ce livre, c'était comment ?» J'allais répondre, quand la porte de l'armoire s'est ouverte, quelqu'un est entré, puis a refermé la porte. Et une drôle de petite voix m'a fait sursauter. « S'il te plaît ouais, !» J'ai pensé qu'on allait me demander de dessiner un mouton, parce que l'Astrée est une histoire de berger. Mais non, la petite voix m'a dit « S'il te plaît, mon livre, tu l'as aimé ?» Alors là, j'ai tâtonné dans le noir de l'armoire, j'ai senti derrière moi un petit être avec une barbe et un bonnet. C'était un nain. Pourvu que ce ne soit pas Hatchoum, ça serait dommage d'attraper un rhume le soir de Noël. Alors j'ai demandé, vous êtes qui, prof, dormeur, timide, simplet, joyeux ou grincheux ? Je dis pas ça pour frimer, mais je peux citer tous les nains de Blanche-Neige, les 9 crues de Beaujolais, les 7 mercenaires et les 12 travaux d'Hercule. Non, non, fit la petite voix, je ne suis pas un nain, je suis un géant de la littérature, je suis Roger Martin Dugard. Vous avez aimé mon livre ? Je me suis senti mieux, enfin moins mal. Roger Martin Dugard, prix Nobel de littérature, et c'est Thibault en 8 volumes, m'était un peu moins étranger, que j'ai lu, l'étranger, qu'Honoré d'Urfé. Quoique, j'allais lui répondre, quand le géant vert s'est énervé, il a dit au nain, enfin à Roger Martin Dugard, qu'il était là avant et que je devais d'abord lui répondre. Et ça bardait beaucoup au milieu des sous-vêtements de la grand-mère. Puis il y a eu un craquement sinistre dans l'armoire, j'ai tenté d'ouvrir la porte, mais Le Pen résiste. Nous étions coincés. J'ai crié « Au secours, ouvrez-nous !» La grand-mère a répondu « Alors là, trouver un serrurier le soir de Noël dans la forêt, non mais vous croyez au Père Noël ?» en revanche, je peux vous envoyer une fée puisque nous sommes dans un conte. » Et bientôt, le hurlement lointain des loups allemands fut couvert par une clochette tintinabulante. Je me pliai dans l'armoire contre Honoré et Roger et par le trou de la serrure, je vis une fée avec sa baguette magique. Elle s'approcha de l'armoire. « Sésame, ouvre-toi, » fit la fée. Apparemment, elle s'était trompée d'histoire, la porte ne s'ouvrait pas. Elle reprit. « Tirez la bobinette et la chevillette chérera !» L'armoire en chaîne du troncé résistait. Alors, le profil de la fée me rappelait quelqu'un. Je l'interpellai à travers la porte. « Excusez-moi, vous ne seriez pas Muriel Robin, née à Montbrison, comme Pierre Boulez ?»« Ouais, ouais, » fit la fée, enfin Muriel. « Mais ce soir, c'est Noël, j'avais besoin de me détendre. Je fais la fée, mais je ne suis pas une vraie professionnelle. » Et l'air venait à manquer dans l'armoire. Et le chabal du XVIIe siècle me demanda à nouveau « Et mon livre, il est comment ?» J'allais lui répondre quand on toqua à la porte de l'armoire. « Bonjour, » fit une voix. « Je suis un autre géant de la littérature, le comte de Saint-Simon. Mes mémoires en 20 volumes firent de moi un grand, mais l'oubli des lecteurs et l'indignité des réformes successives des programmes de l'éducation nationale m'ont peu à peu rabougri, et voilà où j'en suis réduit, un nain. Laissez-moi vous présenter mes autres compagnons d'infortune. » Voici Georges Duhamel, auteur de la chronique des Pasquiers, en 1400 pages. Eugène Sue, colossal et oublié. Henri Bordeaux, Ponson du Terrail. Et enfin, Romain Rolland. Seul Honoré d'Urfé a résisté à la rabougritude, car il est encore au programme de la licence, mais pour combien de temps? Et moi, fit la grand-mère, je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis Madame de Scudéry, auteur de la carte de Tendre et aussi de Artamène ou le grand Cyrus en 10 volumes et de Clélie, histoire romaine, en 10 autres volumes.
Et moi, je ne suis pas le petit chaperon rouge. Je suis en vérité Mazot de la Roche, si oublié, qui a écrit l'inoubliable Jalna. Et me voici à mon tour ratatiné.
Et Saint-Simon, en grand professionnel de la diplomatie, reprit. Nous étions des grands fleuves de la littérature, nous sommes à présent des ruisselets asséchés. Mais si vous nous lisez, alors nous reprendrons vigueur, nous irriguerons vos sens, nous inonderons votre cerveau de torrents de savoir et de vagues d'émotions. C'est Noël, cher automobiliste perdu, faites-nous ce cadeau, lisez-nous s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord, nous vous libérons, sinon cette armoire de chêne sera votre cercueil. J'étais prêt à tout pour me sortir de là, et puis c'est vrai, c'était Noël, quoi. Et bientôt, le hurlement lointain des loups fut couvert par le chant joyeux des bûcherons. Aïe, aïe, oh, on rentre du boulot. Les nains, les vrais, là, ceux du comte, venaient tronçonner le bois du troncé et me délivraient. 10 ans ont passé. La chair de la dinde de réveillon est triste, hélas, et j'ai lu tous leurs livres, tous, hein. Ce soir, c'est Noël, ils sont venus, ils sont tous là, les nains et les géants, Roger Martin Dugard, Honoré d'Urfé, Romain Rolland, Mazot de la Roche, Eugène Sue, Henri Bordeaux, Muriel Robin, Madame de Scudéry, tous ceux de Montbrison, Ravachol et le poète Laprade. Et je vais enfin leur dire ce que je pense de leurs livres, de tous leurs livres. Chers amis, je vais enfin vous dire. Soudain, on frappa à la porte. C'était Pierre Boulez. Bonsoir, et ma musique, vous en pensez quoi ?
Violaine Schwartz, à vous l'honneur de traiter cette histoire en chanson. Je crois que vous avez choisi une chanson de Daniel Balavoine, ouais. Le chanteur. Pourquoi ?
Ça m'est venu comme ça.
Et c'est le personnage d'Honoré d'Urfé qui vous intéresse.
Oui, c'est lui qui parle.
Qui vous a touché. Ouais. Allez, vous êtes accompagné au piano par Vadim Cher.
Je me présente, je m'appelle d'Urfé. Mais mon petit nom, c'est Honoré, Honoré d'Urfé. Plus personne ne sait qui je suis. Mon nom est tombé dans l'oubli. Mon astré, je t'ai donné toute ma vie. Pages, 60 livres, une foule de personnages, quel esclavage! Comme un dingue, je me suis usé. Je vois plus rien, j'ai le dos laminé. Tout ça pourquoi? Que pour du beurre, que pour des noix. Et pourtant autrefois, j'avais tous les honneurs de la cour et du roi, des couronnes de fleurs, des filles nues à mes bras, tous les chaperons du bois. Maintenant je dois me contenter d'une vieille mémé, soi-disant bien gaulée, et qui chante comme un pied des chansons de curé. Au Tannenbaum de mes deux. Les bergers, ce n'est plus dans le vent. J'aurais dû choisir des mousquetaires comme D'Artagnan, ou écrire sur les misérables un truc qui plaît, qui soit rentable. Une petite Zazie à la recherche du temps perdu. Pourquoi je suis pas Dumas? J'aurais dû être Hugo. Je me suis trompée de saga. Je suis arrivée trop tôt. Pourtant j'étais connue comme le loup blanc. Maintenant je dois me contenter de faire peur aux braves gens en me faisant passer pour un vilain géant, pour un ogre barbu, pour un vilain déchu. Comment faire pour sortir de ce trou de malheur? Comment faire pour sortir de ce nid de rancœur? Je pourrais faire une chanson en direct au papou, dans laquelle je vous dirais les amours agricoles d'Astrée pour Céladon. Mais j'ai pas de bagnole, je suis coincé comme un con tout près de mon prison. Au fin fond du forêt, c'est pire que le Père Lachaise. Y a même plus de moutons, sauf dans mes insomnies. Ils galopent toute la nuit dans mes rêves maudits, dans ma nuit infinie, 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 infinie. Et au fait, mon livre, vous l'avez aimé?
Petit Papou Noël en public, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressard, à podcaster sur franceculture.fr. Équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Pierre Mine, Régis Nicolas, Stéphane Touvenin. Notre stagiaire de Noël, Alice Perrega, attachée de production Marie Dalquet. Les photos de la soirée prises par Marie sont postées sur notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre entre amis, même virtuels, ça fait chaud au cœur. Et puis aussi les photos sur franceculture.fr à la page des papous du jour. On se retrouve dimanche prochain de 19h à 20h, horaire d'été. Bonne soirée à tous.